Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 19h.
Quand un petit Palestinien prend une gifle, on a mal à la joue. Quand il tire un caillou pour se défendre, on tire un caillou avec lui.
Vous vous rendez compte que votre plateau est toujours surreprésenté par la gauche?
On veut bien être gentil, mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges.
Le capitalisme, jouez pas au con avec
lui. On est trop gentil.
Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence.
On est gentil, hein? On est toujours gentil.
C'est le capitalisme, le rouge,
arrête-toi.
Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin.
Voilà.
Le vin qui dit vin, dit pot de vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein. Bon, je suis ouvrier.
On est trop gentil.
Lundi 19h, on passe au rouge sur Radio Campus Lille, 106,6 en modulation de fréquence libre, campuslille.com et la radio numérique terrestre. L'émission qui annonce la couleur est réalisée aujourd'hui par Seb, avec Jean-Jacques qui m'a dit juste avant l'émission « Moi aussi, je suis allé en Palestine, mais moi j'ai réussi. » Non mais sérieux?
Moi, j'ai pas eu besoin de signer de papier pour me barrer hein, en même temps. Avec Fabienne aussi, salut Fabienne. Alors Fabienne qui sort d'examen médical mais qui est venue avec un cubi entier de Cabernet Sauvignon dont elle a bu les trois quarts, juste pour se mettre au niveau qu'elle dit.
Mais bah, bravo.
Bah, pour m'inspirer, pour m'en prendre à Sève, qui lui s'est inspiré du petit chaperon rouge qui voudrait dévorer comme l'ordre israélien veut faire table rase de la Palestine. Mais heureusement, il n'a pas encore trouvé la clé du retour.
Oh, alors cette semaine, nous allons entendre deux reportages, à commencer par, évidemment, hein, comme jeudi 12, là, il y a quelques jours, Rima Hassan et ses camarades, les passagers embarqués dans la flottille de la Liberté, sont revenus et ont tenu quelques discours place de la République à Paris.
Certains sont revenus.
Certains sont revenus, oui, c'est vrai, pas tous, t'as raison. Il y a encore un journaliste, hein, je crois, qui est sur place. En tout cas, aux heures, à l'heure où nous enregistrons cette émission, c'est-à-dire ce vendredi 13 au soir. Rima Hassan, donc, qu'on entendra assez longuement et dont on commentera en fait les interventions d'ici quelques instants. Et nous entendrons aussi un reportage réalisé le 24 mai, puisque figurez-vous que le ministre de la Justice Darmanin était allé à Neuville-en-Ferrin dans une salle pour prêcher la bonne parole sur la fermeté en matière de justice. Et nous, on l'a écouté, mais on a surtout tendu le micro à des agents du SPIP, le service de prévention et d'insertion pénitentiaire. Mais avant ça, qu'avez-vous à déclarer, Fabienne?
Alors, c'est encore et toujours Israël qui pilonne l'Iran depuis hier. En fait, on s'aperçoit que les velléités d'Israël, ce n'est pas seulement l'Anschluss avec la Palestine, mais il veut s'en prendre à toute la résistance.
L'Anschluss, là, carrément.
Ouais. Oui.
Oui.
Il veut s'en prendre à toute la résistance, à tout le Proche-Orient et au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, donc, c'est l'Iran qui en subit les conséquences. La Syrie est elle aussi pilonnée à son tour. Et les Houthis du Yémen, qui eux aussi subissent la hargne sioniste. Et maintenant, et toi, Seb, qu'as-tu à déclarer?
C'est une information que je tiens de la page Facebook de Roubaignol, qui donne des actualités passionnantes sur Roubaix et environ, alors qu'il nous reparle de Christian Poix. Christian Poiret, qui n'est pas que le président du conseil départemental.
C'est pas le même légume.
Christian Poiret qui... n'est pas que le président du conseil départemental, il est aussi presque maire de sa bonne ville de Lohain-Planque. Et il frétille depuis que le Tour de France a prévu de passer par son village. Oui, mais voilà, il y a un problème, il y a un pont trop bas pour la caravane, qui est bien trop grande. Alors, bim, 450 000 euros de frais d'aménagement aux frais du contribuable. Oui, mais voilà, bon, juste un problème, c'est que la route, en fait, ils ont creusé, quoi, du coup, au-dessus du pont, mais elle se trouve noyée dès qu'il drache. Voilà, donc la deuxième étape du Tour de France, on vous l'annonce, ça sera Aquabike. Et toi, Jean-Jacques, qu'as-tu à déclarer?
Oui, alors que ça fait des mois qu'on voit se dérouler sous nos yeux un génocide organisé à Gaza, alors qu'il n'y a plus de distribution de nourriture, que les ressources sont à zéro selon le programme alimentaire mondial. La bataille pour la Palestine aujourd'hui, faut bien le dire, hein, ça consiste juste à se faire entendre, trouver un chemin dans la jungle médiatique. Heureusement qu'il y a Radio Campus, hein, mais dans les médias mainstream. Alors, c'est bien le but, hein, percer le mur du silence qu'avait la flottille pour Gaza, qui a embarqué entre autres Rima Hassan et Greta Thunberg. C'est aussi le cas de la marche pour Gaza qui est arrivée en Égypte aujourd'hui, un vendredi 13, au jour où on enregistre, et qui est bloquée à cet endroit. Ce sera aussi le cas la semaine prochaine de la marche sur Bruxelles pour Gaza en Europe. Ce sont bien des marches symboliques, parce qu'on imagine bien que la foule partie de Tunis ne pourra pas forcer la frontière entre Gaza et le Sinaï égyptien. L'armée égyptienne ferait tout pour bloquer une porte de sortie pour des millions de Palestiniens qui vivent un enfer sur terre. Effet symbolique, uniquement donc, mais qu'il faut investir et appuyer de toute notre force.
On passe au rouge. Retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com.
Les quelques jours, pour ma part, moi aussi je vous aime, vous n'avez pas aidé, j'avais pas mon téléphone, mais ça m'a tenue quand même, je pense, tout au long, de savoir qu'il y avait de l'amour et de la mobilisation, pas pour nous en particulier, mais derrière cette action, c'était Gaza surtout. Et je vous aime aussi. À travers cette action et ce qui s'est passé ensuite, les quelques jours de détention qu'on a eu, en tout cas pour ma part, j'ai eu une grosse, grosse pensée, je vais pas pleurer, pour les Palestiniens, les 10 000 Palestiniens, prisonniers politiques, que ce soit via la détention administrative ou via tout le procédé de l'arsenal colonial qu'il y a en Israël contre les Palestiniens et les militants et les militantes palestiniennes. Une pensée pour Georges Ibrahim Abdallah, dont je vois les drapeaux ici, et qu'il faut libérer. On n'a rien vécu par rapport à ce que vit le peuple palestinien. On a senti le lot d'humiliation coloniale, le lot de persécution, le lot de violation de droits aussi. Parce que je veux le redire, nous avons été kidnappés en eau internationale. J'ai pas encore toutes les mises à jour, mais j'ai cru comprendre que la France avait hésité à réagir. Eh bien, je peux vous le confirmer, ça a été confirmé, y compris par le consul qui est venu nous rendre visite. Nous avons été interceptés, kidnappés en eau internationale. Ça, tout le monde doit le savoir. Et nous avons été ramenés de force au port de Ashdod alors que nous voulions aller, comme vous le savez, direction Gaza. Et une fois sur place, on nous a reproché d'être sur le territoire israélien. Donc vous voyez, c'est tout l'arsenal qui a été mis en place par Israël, et nous avons refusé de signer un document qui attestait que nous étions... Le document que nous avons refusé de signer attestait que nous étions rentrés de manière illégale sur le territoire israélien, et sciemment, politiquement, nous avons refusé de le signer pour dire que ce n'était pas notre choix d'arriver à Ashdod, que nous avons été kidnappés et ramenés de force sur ce territoire, alors que nous, notre destination était celle justement de la bande de Gaza. Donc ça, c'est extrêmement important de le rappeler, et c'est la raison pour laquelle nous avons été détenus tous ces jours. Voilà, je vais pas être beaucoup plus longue, je veux aussi remercier ma famille politique, sans laquelle j'aurais pas pu tenir. Vous pouvez encore. Mais je veux absolument les remercier parce que, au-delà du soutien qu'on a reçu pendant toute cette action, c'est aussi la famille politique. Et là, je ne le dis pas en tant que députée de la France Insoumise, je le dis en tant que Palestinienne. Là, je suis en tant que Palestinienne d'abord, en tant que Palestinienne, franco-palestinienne ici. C'est la famille politique qui a apporté, comme il le fallait, la cause palestinienne. Comme il le fallait. En prenant tous les risques de diabolisation, de persécution. Et vous avez vu le prix que chacun et chacune a payé en portant cette cause palestinienne. Certains ont été attaqués personnellement jusqu'à aujourd'hui. Ils ont été ciblés, etc. Mais je veux juste dire un mot sur le coût politique que ça a été pour la France insoumise et pour chacun d'entre nous de porter comme il le fallait cette cause palestinienne et qu'il faut encore porter au regard de tout ce que vous savez sur la bande de Gaza et ce qui se passe en Cisjordanie jusqu'à la libération du peuple palestinien. Je vous donne la parole. Vous êtes trop chou, merci. Un dernier mot. Comme vous le savez, beaucoup le savent, mais je le redis, moi, ma famille a été expulsée en 1948 de cette terre. On n'a jamais pu y revenir. Et j'ai pu arracher une toute petite branche d'un olivier et une toute petite fleur avant d'être embarquée entre deux changements, deux cellules, J'ai demandé à un monsieur qui nous accompagnait, et avant d'être mise dans le camion cellule, je lui ai demandé si je pouvais arracher une toute petite branche d'un olivier. Il m'a regardé, il m'a dit « Vas-y ». J'ai pris cette branche et elle est avec moi, et elle restera avec moi jusqu'à ce que les réfugiés palestiniens puissent véritablement rentrer chez eux, cultiver leurs oliviers et embrasser pleinement leur terre.
Alors là, bien sûr, on vient d'entendre Rima Hassan, donc de retour de son périple, de cette aventure si courageuse. C'était le jeudi 12 juin, place de la République, à Paris. Alors j'attends vos commentaires, bien sûr, mais on peut déjà noter que là, il y a des confirmations sur certaines informations à propos desquelles on avait des doutes. Notamment, il semblerait qu'un consul confirme bien que l'arrestation a été faite dans des eaux internationales, ce qui, du coup, évidemment, rend particulièrement problématique l'idée de leur faire signer un papier qui les oblige à reconnaître qu'ils se sont introduits sur le territoire d'Israël.
Moi, j'aime bien la parabole avec l'olivier, en fait, parce que c'est la même trait que la résistance palestinienne. À savoir, Israël peut les attaquer, il peut les réduire comme il veut, mais ils ont capacité de reprendre racine et de continuer la lutte.
Ouais, puis c'est le symbole de la paix, alors que ce mot-là n'a pas été prononcé.
Tout à fait. Mais je pense que le mot paix, les Palestiniens, pour le moment, ne veulent plus le prononcer. Je pense que les Palestiniens veulent les moyens pour se défendre et les moyens de retrouver un État.
Moi, ça me fait penser à un truc, hein, parce que la Palestine, depuis 1948, c'est le symbole que le multilatéralisme dont on nous parle, qui est remis en cause actuellement, etc., c'est le symbole qu'en fait ce multilatéralisme n'a jamais existé, que ça a toujours été la loi du plus fort qui prévalait, la loi du plus riche, la loi de celui qui défend l'empire le plus puissant. Et là, en fait, les cartes tombent, parce que là, effectivement, alors que aujourd'hui Israël attaque l'Iran, on est dans l'unilatéralisme le plus débridé, c'est-à-dire la loi du plus fort.
Moi, je suis pas totalement d'accord avec toi. Je pense que tu fais référence à l'équilibre des forces comme il existait pendant la guerre froide, et je pense que cet équilibre des forces est en train de se reconstituer avec les BRICS d'un côté et l'OTAN de l'autre.
Ouais. On fera des émissions peut-être dans quelques années où on le constatera, mais pour l'instant, c'est pas flagrant.
Et moi, je pense que ce retour aussi rapide, mis à part du dernier camarade qui reste en Israël, est une victoire de la mobilisation internationale, une mobilisation de tous les peuples. Ils ne pouvaient pas se permettre de les garder plus longtemps parce que ça a généré des manifestations monstres partout dans le monde. y compris en France, ça a permis de relancer le mouvement de soutien à la Palestine. Et cette voilà. Et quand elle dit que des flottilles, il y en a des dizaines qui sont prêtes à repartir, va falloir quand même que le gouvernement Netanyahou, à un moment, soit confronté à la réalité, que les peuples du monde n'abandonneront jamais le peuple palestinien.
Il n'y avait pas que Rim Hassan qui s'est exprimé ce jeudi 12 à Paris. D'autres passagers aussi qu'on va entendre maintenant et qui, bien sûr, évoquent l'idée que cette flottille était un symbole. Et puis, ils donnent des détails aussi sur les maltraitances qu'ils ont subies avec l'arrestation par les forces israéliennes.
Bonsoir, bonsoir Paris. Sur notre petit bateau, on pensait que c'était quelque chose de petit, quelque chose de symbolique. Un peu de riz, un peu de farine, un peu d'aide médicale et surtout beaucoup d'amour. Et je dois dire que on n'imaginait pas ça ce soir. Et on se rend compte que quand on fait tous et toutes quelque chose de symbolique, ça dépasse le symbolique, ça devient magique, ça devient puissant. Et avec ça, on peut tout transformer. Alors, je vous remercie énormément. Merci à vous, merci pour toutes les prises de conscience que ça a pu permettre, tout ça. Et aujourd'hui, peut-être que les caméras sont sur nous, mais il faut surtout qu'elles aillent vers Gaza, parce que c'est là-bas que ça se passe. Il y a aussi le Liban, la Cisjordanie.
Je vais essayer de faire court, mais j'ai deux messages pour vous ce soir. Le premier, c'est que depuis 48 heures que je suis rentré, j'ai voulu donner une voix à Rima, à Reva et à tous les autres qui étaient emprisonnés, qui n'avaient pas accès à leur téléphone puisqu'ils sont au fond de la Méditerranée avec les dorades, mais qui n'avaient pas accès non plus aux médias, qui n'avaient pas accès à leurs avocats. Le premier point que je veux évoquer avec vous, c'est que nous avons subi de la maltraitance. Cette maltraitance, elle est documentée. C'est de la privation de sommeil. Ce sont des restrictions d'accès à l'eau et à la nourriture. Et ce sont surtout des restrictions d'accès à nos avocates, qui, je le dis bien, étaient des avocates palestiniennes, qui ont été molestées. Ces avocates ont été molestées, elles ont été bousculées, elles ont été injuriées. Il leur a été impossible de faire leur travail dans des conditions normales de confidentialité. Et donc c'est à ces femmes palestiniennes que je veux rendre particulièrement hommage.
Ce qui se passe aujourd'hui là sur les conditions de détention inhumaines qui a frappé les membres de la flottille, ben ça fait penser quelque part aux conditions que vivent les prisonniers politiques de Guantanamo aux États-Unis, hein, de toute manière qui se ressemblent, s'assemblent. Et il faut savoir aussi par rapport à cette capacité à manier la répression à tout va, qu'en France, les gardiens de prison sont formés par des sociétés privées israéliennes. Donc, voilà, là aussi, un autre domaine où qui se ressemble, s'assemble. Bref, voilà, Israël est très, 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 très en vue sur le marché de la répression des exactions. Et peut-être ne le savez-vous pas, mais à la Mecque, c'est une société israélienne qui est chargée de la sécurité.
On a évoqué des maltraitances ici. Privation de sommeil, y compris d'ailleurs, on a des détails sur Greta Thunberg, restriction d'accès à l'eau et à la nourriture et restriction d'accès aux droits, d'autres droits, avec les difficultés de parler avec leurs avocates. Rima Hassan a repris la parole jeudi soir. Elle évoque elle aussi, d'autres maltraitances.
Je veux juste aussi préciser que la première chose qu'ils ont arraché quand ils sont arrivés sur le bateau, c'est le drapeau palestinien. La première chose qu'ils ont piétinée, qu'ils ont arrachée, qu'ils ont voulu cacher, c'était le drapeau palestinien. Les autres drapeaux, on a pu les récupérer, parce qu'on avait les drapeaux de toutes les nationalités à bord de ce navire. Et bien sûr, en plus grand, on avait le drapeau palestinien, puisque c'était notre destination. C'est la première chose qu'ils ont arrachée en montant sur le bateau. Et les vidéos que vous avez vues, je tiens à le dire, les vidéos que vous avez vues où nous distribuer des sandwichs et puis de l'eau. C'était le seul moment où il y avait quelqu'un pour filmer, pour qu'ensuite ça fasse pour leurs réseaux sociaux. Je veux dire que cette nuit-là, nous avons tous dormi sur le pont sans gilet, sans couverture, sans rien du tout. Pendant que eux, ils ont investi nos cabines, ils étaient bien au chaud en bas, et nous, on a été contraints de dormir là où nous avons été arrêtés, et là où nous avons été placés, et on n'avait rien pour pouvoir se couvrir, etc. C'était au petit matin qu'on a pu vraiment se couvrir, mais on a vraiment dû se coucher en étant assis les uns sur les autres. Et tout ça, bien sûr, n'a pas été filmé. Ce qui a été filmé, c'est au moment où un soldat arrive et il nous distribue un sandwich et une bouteille d'eau. Et c'est assez ironique. C'est assez sadique. C'est assez sadique et ironique après nous avoir littéralement kidnappés à 2h du matin, pointé des armes dessus et avoir fait ce qui a été fait cette nuit-là. Donc c'est quand même important pour nous de dénoncer la propagande aussi israélienne qui a été faite pendant nous étions empêchés de communiquer. Donc c'est très très important de le dénoncer. Voilà, merci à vous, vraiment, je réitère les remerciements. Vous êtes incroyables. Cette lutte, elle doit continuer coûte que coûte. La lutte palestinienne doit continuer coûte que coûte jusqu'à la libération du peuple palestinien. Ça ne sera pas un énième épisode sur lequel nous avons eu des mobilisations. Ça ne sera pas un énième épisode sur lequel on aura mobilisé un peu de gens par-ci, un peu de gens par-là. C'est l'épisode ultime. Ultime. Jusqu'au bout, il faudra tenir. Merci infiniment.
Oui, quand on entend la façon dont ont été reçus Rima Hassan et ses compagnons, en fait, moi, je sais pas, on pouvait bien s'en douter quand même. On pouvait bien s'en douter parce qu'il faut quand même garder en mémoire ce que disent Netanyahou ainsi que les différents ministres et puis tous les gens qui mènent le gouvernement israélien qui disaient même après le 7 octobre qu'il fallait affamer tous les Palestiniens de Gaza, qu'il faut les réduire, il faut les éliminer, etc. On est vraiment face à un régime fasciste qui peut aller jusqu'au bout. Et on le constate aussi par rapport à l'agression de l'Iran qui a commencé vendredi 13.
Oui, mais justement, cet avantage, ça montre comment les fascistes, d'une façon générale, peuvent se comporter face à leurs opposants, quand ils ont un peu de pouvoir.
Oui, même quand ils n'ont pas de pouvoir, je pense que les fascistes sont capables d'être violents par rapport à leurs opposants. Conféré la période de fascisation que nous traversons aujourd'hui en France. Moi, je trouve surtout qu'il faut rendre hommage au courage dont je n'arrive même pas à imaginer la quantité de courage qu'il a fallu à ces hommes et à ces femmes pour prendre ce bateau, tout en sachant qu'ils allaient être confrontés à l'armée israélienne, qui est une des pires armées au monde. Et ils ne savaient, et certes, la seule chose dont ils étaient sûrs, c'est qu'ils allaient se faire arraisonner. Mais comment est-ce que ça allait se passer après pour eux ? Et ça, pour moi, c'est quelque chose... moi, je dis gloire aux militants de la flottille et gloire aux militants de toutes les flottilles qui prendront le même chemin après. Et gloire à la marche des Tunisiens et des Algériens qui aussi est partie sur la bande de Gaza pour soulager et pour aider à la libération du territoire palestinien. Et n'oublions pas en France nos dockers, nos travailleurs des ports et docks,
et oui,
qui ont refusé le l'embarquement d'armes ou d'éléments permettant la construction d'armes à destination d'Israël. Et ils ont reçu, ces bateaux-là ont reçu le même refus à Gênes en Italie et en Grèce. Voilà, il faut que la lutte s'intermondialise comme ça. Il faut que les peuples se mobilisent de partout pour la libération de la Palestine.
J'ai une Palestine de moi, quand à genoux un peuple ploie, sous des tapis le monde, ma foi, qu'on fabrique chez moi. J'ai une Palestine de toi, quand les petits enfants se noient, poussés sur des coquilles de bois, par tes raisons d'état, d'état de soudard qui marche au pas, dans des états qui ne marchent plus, où donc pourrait-il bien aller, assis sur des peuples opprimés, car le sucre de canne acquis fut longtemps un bien mal acquis. Un sucre trop souvent volé à ce sombre passé. J'ai une Palestine de lui, quand la population s'enfuit, elle n'a plus nulle part où aller, car ses frontières sont fermées. J'ai une Palestine de nous, devant un peuple debout, on donne l'ordre de tirer dans son dos pour l'exterminer. J'ai une Palestine de vous, quand devant un peuple qui est à bout, vous lui jetez des bombes au phosphore, ou bien lui signifie. J'ai une Palestine de ces âmes humaines de si peu, qui sont mon tuer leur prochain, de la main à la main. L'homme a une Palestine de lui, quand méthodiquement il détruit, faut croire que c'est dans l'air du temps, l'avenir de ses enfants. J'ai une Palestine du monde, quand j'entrevois son côté sombre, qu'il est de toutes parts en proie à la folie de petit roi. J'ai une Palestine de moi, quand à genoux un peuple ploie, des tapis de bombes, ma foi, qu'on fabrique chez moi.
Zoufris Maracas, Pâle Estime.
Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6.
Je vous propose à présent d'écouter, ou plutôt de réécouter, l'éphéméride de l'émission L'Heure de le Maître du 4 juin. C'était juste après la victoire du PSG, un petit bijou signé Ali.
Aujourd'hui, mercredi 4 juin 2025, c'est la sainte victoire du PSG. Sainte victoire du PSG est la sainte patronne du triomphe des vrais croyants sur les mécréants et les chiens infidèles. Alhamdoulilah. Le match va bientôt commencer. Les joueurs, camis bien ajustés et chéchia sur la tête, enlèvent leur babouche avant d'entrer sur le terrain. Ils se dirigent vers le centre et... Ça y est, l'arbitre vient de siffler le début de la partie et tout de suite, sainte victoire du PSG met la pression. Couteau à la main et ceinture d'explosifs autour de la taille. Les infidèles transalpins étouffent littéralement, pris à la gorge qu'ils sont. Il ne faut que 6 minutes au Cheikh Hakimi pour ouvrir le score. Une passe millimétrée, un contrôle orienté parfait vers la Mecque et une frappe croisée qui ne laisse aucune chance à Yann Sommer. Le stade explose. de joie. La tribune des hommes laisse éclater son enthousiasme. Et pour fêter ça, certains supporters se dirigent vers la tribune des femmes pour en amener quelques-unes vers l'espace lapidation. Plus le temps passe et plus le match devient électrique. Tacle appuyé d'un bout d'ouïe, échauffouré, carton jaune distribué à tour de bras, les nerfs sont à fleur de peau. Le stade retient son souffle, Aboudoui s'élance et marque le deuxième but à la 20e minute. Pour fêter ça, on sacrifie un mouton sur la surface de réparation, le match reprend et les occasions s'enchaînent, mais rien de concluant ni d'un côté ni de l'autre. Et très vite, l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Les joueurs se dirigent vers les vestiaires où ils vont pouvoir faire leurs ablutions. Au retour des vestiaires, le rythme ne faiblit pas. C'est un véritable mano à mano. À la 63e minute, c'est récupération haute, talonnade du Hajj Dembélé en direction de l'imam Vintina, qui avance et lance à Aboudoui, encore lui, en profondeur, décroise du droit dans la surface où traînent encore quelques abats de moutons, et il crucifie. Et il empale l'Inter. Et c'est le troisième but marqué par Sainte Victoire du PSG en Ligue des Champions. Deux buts seront encore marqués dans ce match, haletant, et ce n'est pas dû au hasard. Les piliers de l'islam étant 5, c'est bien logique que le PSG en marque 5. Et en délire, la foule fait des doigts, on sacrifie son voisin Koufar après lui avoir apporté une assiette de couscous, et des pierres volent vers la tribune des femmes. En toute logique, l'imam Chalgoumi, déjà canonisé par nos soins, a refusé la canonisation de Sainte Victoire du PSG, surtout après avoir entendu les ignobles propos antisémites des supporters du PSG. Ce qui va définitivement à l'encontre de l'humanisme de Chalgoumi et de ses amis.
Mais Israël, le peuple israélien va gagner. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. Il faut être uni. Le monde, il vous regarde. Oui. Vous savez, Israël, c'est la matrice du monde. Si Israël, elle va mal, le monde, il va mal.
Ah, faut savoir ce qu'on veut. Un PSG victorieux, Paris Saint-Germain. Ou un PSG qui perd. Paris s'ennuie. À mon avis, je crois que Chalgoumi et Attayo ont déjà leur préférence.
C'était l'heure de le mettre sur Radio Campus.
Eh ouais, hommage.
Ah oui, surtout, c'était un grand acte de courage des supporters du Paris Saint-Germain, qui ne sont donc pas tous fascistes, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Sur le Parti Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est aussi le club des gamins
du 9-3.
Voilà, du 9-3. Oui. Donc, il y a forcément un soutien populaire. Alors, le PSG a été menacé par l'UEFA de sanctions suite à cette action des tifosi. Mais c'est la réaction qui est intéressante parce que pour la première fois, l'UEFA a déclaré qu'elle ne prendrait aucune sanction contre le PSG après le tifo Free Palestine déployé par les ultras du virage Auteuil lors du match de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Car l'instance européenne estime que ce message ne peut pas être considéré comme provocateur ou insultant.
Ouais, juste un truc quand même, j'ai pas regardé le match, j'avoue, mais je suis tombé sur les pubs pendant le match, ou avant le match, je sais plus trop. C'est ça que j'ai regardé, et en fait il y avait des pubs avec des femmes voilées qui faisaient du foot, et puis avec un message de l'UEFA disant « tout le monde doit participer, patati patata ». Et c'était vraiment complètement hallucinant, ce qui montre, enfin, évidemment, que l'UEFA, c'est pas des gauchos, hein, mais qu'il y a des capitalistes qui se disent que tous ces débats sur l'islam et compagnie, c'est un peu des trucs à la con.
Oui, et surtout, il ne faut jamais présager de l'avenir.
Radio Campus Lille, disponible en DAB+.
L'ancien ministre de l'Intérieur, devenu ministre de la Justice, Darmanin, toujours tout proche de la mairie de Tourcoing, était juste à côté, à Neuville-en-Ferrin, pour exhiber sa fermeté. Samedi 24 mai, espace Rocheville, à Neuville-en-Ferrin, Il est 10h30 et Gérald Darmanin est présent pour parler de la réforme de la justice. Il est ministre de la justice. Comment s'intitule votre métier, au juste, que je ne me trompe pas ?
On est conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. La probation, c'est le fait de réintégrer des personnes dans la société par un accompagnement social qui permette la réhabilitation.
On parle de personnes qui sont anciennement détenues, c'est ça ?
Pas forcément. On parle aussi de personnes qui sont condamnées. Donc on a des équipes en milieu fermé, donc en détention, qui préparent la sortie des gens, qui maintiennent les liens familiaux. Et à l'extérieur, on a des agents en milieu ouvert qui prennent en charge les personnes, on dit des personnes sous main de justice, ce qui est assez horrible, mais ça s'appelle comme ça, qui ont été condamnés mais qui sont pas ou qui sont plus incarcérés. Mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais été incarcérés, en fait, et qui sont condamnés par la justice à une peine, ce qu'on appelle une peine de probation. Donc essentiellement, ce sont des sursis probatoires. C'est comme un contrat avec la justice, ils maintiennent la liberté s'ils respectent des obligations.
En quoi consiste votre travail, au juste ? Qu'est-ce que vous passez votre temps à faire, quoi ?
On reçoit les personnes à hauteur d'à peu près... En général, le rythme, c'est à peu près une fois par mois. On a une casquette de contrôle où on vérifie que les personnes accomplissent leurs obligations comme le juge l'a déterminé lors de l'audience correctionnelle. Et on favorise leur accompagnement social avec des relais des partenaires sociaux à l'extérieur. Donc on les oriente vers des structures de soins, vers des structures d'insertion professionnelle, vers des structures d'accès au logement. On détermine les freins, en fait, des personnes dans leur réhabilitation sociale. Ce qui est extrêmement compliqué aujourd'hui, c'est que comme les pouvoirs publics sont de moins en moins présents et que l'associatif se casse clairement la gueule, on a maintenant très peu de solutions à proposer aux gens et très peu d'orientations où on sait que ce sera, entre guillemets, efficace pour leur réhabilitation.
Petit rassemblement aujourd'hui, soutenu par différentes organes que je tiens à remercier. La CGT Insertion Probation, la Ligue des Droits de l'Homme Roubaix-Tourcoing, avec le soutien du LCGT Tourcoing, Solidaire Nord, la FSU 5962, également le Comité des Sans-Papiers 59, le Syndicat des Avocats de France de Lille, le Syndicat de la Magistrature section de Douai. On a quand même pas mal de monde derrière nous. Je suis Valentin François, membre de la commission exécutive nationale de la CGT Insertion Probation. Mon syndicat représente les travailleurs et travailleuses sociaux, administratifs, psychologues des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Je suis par ailleurs militant écologiste. Je le dis juste pour Monsieur Darmanin, s'il l'entend par là.
Alors aujourd'hui, il y a le ministre de la Justice qui est là, à quelques mètres de nous, dans la salle Rocheville. Il vient pour annoncer une réforme de la justice. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur les changements là qui s'annoncent avec ce ministre ?
La réforme de la justice, elle n'est pas encore clairement dans les tuyaux. Ce qu'on a vu quand même depuis que M. Darmanin était notre ministre, c'est des annonces populistes, des annonces qui sont contre le droit, mais on s'en fiche puisque ça fait des effets d'annonce et que ça permet aux gens de se dire, par exemple, sur les activités ludiques en prison, ça c'est quand même le plus parlant. Il y a eu un tract d'un syndicat de surveillants du sud de la France qui a dénoncé des activités dans une maison d'arrêt. C'est remonté jusqu'au ministre. Le ministre a décidé de redescendre sur l'administration pénitentiaire le fait d'interdire certaines activités dites ludiques dans les établissements pénitentiaires. Cette décision, elle a été cassée par le Conseil d'État le 19 mai 2025. Donc l'État nous a donné raison. La CGT Insertion Probation était dans les organisations qui ont fait un recours contre cette décision qui était complètement arbitraire. Et je pense que malheureusement, et c'est un peu dommageable pour un ministre de la Justice, le droit, il s'en fiche un peu tant que l'effet est populiste et que ça lui permet de gagner de l'électorat d'extrême droite.
Juste, vous pouvez nous donner des exemples de ces activités ludiques là, qu'on se représente les choses ?
Alors, c'est des activités yoga, des activités méditation, des activités esthétiques, tout ce qui est considéré comme non essentiel. Lui, ce qu'il a dit, c'est « je suis OK pour l'école, le travail, le sport, mais c'est tout ». Voilà, il n'y a rien d'autre. C'est ce qu'ils considèrent, je pense, comme superflu. Et on ne va quand même pas donner le droit aux gens d'accéder à ce type d'activité ludique alors qu'ils sont incarcérés, qu'ils font une peine et qu'ils doivent souffrir.
Il nous semblait crucial d'organiser ce rassemblement lorsque nous avons appris la tenue d'une réunion publique avec Vincent Ledoux, député, et Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Réunion publique sur le thème de comment améliorer la justice. Vous n'avez pas dû manquer le festival d'outrance populiste et poujadiste du gouvernement de M. Bayrou, dont fait partie M. Darmanin, depuis qu'il a survécu à la censure grâce aux voix du Rassemblement National. Celui qui a affirmé que le principal problème de la police était la justice, celui qui a chassé les populations racisées dans les quartiers après l'assassinat de Nahel Merzouk ou avec ses opérations Place Nette, celui qui a ordonné les lancers de grenades à Sainte-Soline ou qui a franchi une barrière en faisant voter l'ignoble asile et immigration avec les voix de l'extrême droite, cette personne est donc désormais ministre de la Justice. Que veut dire améliorer la justice pour M. Darmanin ? Depuis sa désignation le 23 décembre 2024, le garde des Sceaux a exposé une vision claire de la justice. Il s'agit d'une justice digne du 19e siècle, basée sur la répression. L'individu est donc responsable en tous ses effets. La société ne lui doit rien. L'étranger est un ennemi. Il faut donc toujours plus incarcérer et effacer le peu d'humanisme au sein de la justice, en rendant plus martial l'insertion et la probation. Il s'agit de créer une police pénitentiaire, interdire les activités dites ludiques, expulser toute personne migrante condamnée, ouvrir des bagnes en Guyane en surfant sur le passé colonial français, réinstituer les quartiers de haute sécurité supprimés par le Grand Bandar, car inhumain, ou créer des prisons en kit. On parle même de louer des places de prison à nos voisins européens.
On va entendre un peu plus tard Darmanin, ministre de l'injustice et de la crapulerie. Ça me fait penser à l'affaire Sarkozy, où Nicolas Sarkozy a été condamné à une peine de prison et qui s'est transformé en 15 jours de port de bracelet électronique. Je ne suis pas sûre que les jeunes qui ont été attrapés après à la sortie du match avec le PSG bénéficient de la même
mensuétude.
Mensuétude, tout à fait.
Ouais, moi je pensais à ces interventions ludiques, là, je ne sais plus comment on dit, les interventions ludiques, les activités ludiques en prison. Quand on sait, alors j'ai pas les données précises, mais quand on sait le nombre de problèmes psychiatriques qu'il y a en prison qui sont complètement incroyables, alors les trucs qu'on va interdire, ben c'est de la méditation, c'est des réflexions sur soi, c'est des tout ce qui permet en fait de se recentrer. C'est quand même, voilà quoi, on est dans un monde un peu bizarre.
Non, puis c'est pas que ces activités ludiques dans ce sens-là. Et pourquoi du sport ? Pourquoi pas des activités manuelles ? Pourquoi pas une bibliothèque avec où tu pourrais faire intervenir des gens avec pour des ateliers d'écriture ? Il y a tout un aspect culturel qui est totalement nié. Et en fait, tu renvoies ces gens à une réalité qui existe pour eux déjà dans leur quartier, et tu ne leur donnes pas vraiment d'outils pour s'en sortir.
La suite du reportage Darmanin et les Spips, c'est juste après la chanson.
Oui, c'est arrivé. Ils l'ont emmené à la santé. Ils l'ont emmené à la santé pour des conneries. Ils l'ont enfermé. Il avait la cote dans le quartier. Il commençait même à être respecté. Alors un type nommé Didier vint un soir chez nous pour l'entraîner dans un cambriolage. Ils l'ont emmené à la santé, ils l'ont emmené à la santé, à mon frangin, oui c'est arrivé. Ils l'ont emmené à la santé, ils l'ont emmené à la santé pour des conneries, ils l'ont enfermé. Mon frère aimait la sœur de Dédé, ça je lui aurais bien pardonné. Il aurait mieux fait de m'écouter car quand les flics
fait piquer et les autres se sont tirés. De s'en aller, enfermé derrière les murs, mais ça n'est plus qu'un numéro. Maintenant il pleure toutes les nuits, je ne le reverrai pas de sitôt. Ils l'ont emmené à la santé, ils l'ont emmené à la santé, à mon frangin, oui c'est arrivé. Ils l'ont emmené à la santé, ils l'ont emmené à la santé pour les conneries.
On passe au rouge, chaque lundi, de 19h à 20h, sur Radio Campus, en 6,6.
Ça fait des années qu'on dénonce le fait que la peine d'emprisonnement soit la peine de référence dans le droit français. Ça fait des années qu'on réclame qu'il existe une réelle peine de probation autonome. Alors, ça paraît un peu du jargon, mais c'est la garantie qu'on puisse accompagner les gens en milieu ouvert, comme j'expliquais tout à l'heure, sans que ce soit corrélé avec une peine de prison. Aujourd'hui, on est sur une peine de... Quand on est suivi à l'extérieur, on a une peine de sursis au-dessus de la tête. Donc on nous dit, si vous ne respectez pas, vous retournez en prison pour autant ou autant de temps.
Nous, il y a une menace, quoi.
Il y a une menace. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est travailler de façon décorrélée de cette menace de l'emprisonnement, ce qui n'empêchera pas une personne, évidemment, de repasser en correctionnel si toutefois il ne respecte pas son contrat avec la justice, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Mais nous, on souhaite recevoir les gens dans les conditions les plus positives possibles. Ce qui nous inquiète, c'est toutes les annonces autour de des places de prison supplémentaires, de louer des places de prison.
Mais pourquoi ça vous inquiète, des places de prison supplémentaires?
Alors, la surpopulation carcérale ne sera jamais réglée par des programmes de construction de prison. Ça fait des années qu'ils en construisent de plus en plus, de plus en plus. On les remplit, on les re-remplit, on les sur-remplit, et il n'existe plus de... Enfin, on se retrouve finalement toujours avec des matelas au sol aujourd'hui. Donc, ça ne règle pas la question du carcéral. Au plus il y a de places de prison, au plus elles sont remplies. Ça, on le sait, c'est établi, ça fait 20 ans qu'on... Enfin, ça fait même plus longtemps que ça, mais c'est un fait. Je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Le SPIP n'existe pas dans les discours de notre ministre aujourd'hui. Il ne parle que de l'administration pénitentiaire. Nous, on fait partie de l'administration pénitentiaire, certes, mais on est des travailleurs sociaux et on ne doit pas dépendre de cette politique ultra-sécuritaire. On aimerait travailler dans de meilleures conditions là-dessus.
Pourtant, cette politique a honteusement failli. La surpopulation carcérale à des niveaux inégalés le démontre, et les multiples condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme le prouvent. Cette politique rend notre société toujours plus dure et dangereuse en favorisant la répression des populations les plus fragilisées. Ces dernières s'écartent de la société et développent toujours plus de comportements délinquants. Lorsqu'on répond à la violence par la violence, nous n'obtenons qu'une violence redoublée. De nombreuses études prouvent l'échec de cette politique qui a débuté dans les années 2000. Le rapport de la mission d'urgence relative à l'exécution des peines remis au gouvernement en mars 2025 ou le rapport 2024 du contrôleur général des lieux de privation de liberté rendu le mercredi 21 mai 2025 le démontre en soulignant la gravité de la situation en prison et appelle à une régulation carcérale ainsi qu'à des réductions de peines exceptionnelles comme lors du Covid. Par ailleurs, cette politique est illégale ainsi que l'a expliqué le Conseil d'État dans ses décisions de ce lundi 19 mai 2025, annulant pour excès de pouvoir l'interdiction démagogique des activités ludiques en détention, décidée par les services de M. Darmanin. Rappelons également les décisions du Conseil constitutionnel, frappant d'inconstitutionnalité la loi Asile et Immigration.
Il y a le ministre qui arrive, justement, qui vient à la rencontre de la CGT.
Bonjour.
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 Salut.
Bonjour.
J'aurais dû vous apporter plus de bravo.
Oui, c'est vrai,
c'est pas prévu. Voilà, petit renseignement pour marquer nos petits accords avec notre politique de l'attention à l'égard de la censure et de l'approbation. Parce que
dans les budgets, voir sans
le micro, s'il vous plaît.
Sans le micro, vous voulez
ouais,
pas c'est pas public.
Non, c'est sûr que non.
Bon, bon.
Non, c'est qui veut nous parler?
Concrètement, ce que j'ai dit à M. Darmanin, c'est qu'il faut arrêter de construire des prisons et donner un peu plus d'argent à l'insertion et à l'approbation, plus favoriser l'aide aux personnes condamnées plutôt que les incarcérer et notamment arrêter les idées type quartier de haute sécurité, en fait, le tout répressif. Bon, je sais que globalement, il m'a dit oui, j'avais déjà vu. C'est la première fois que je vois M. Darmanin comme ça, mais je sais qu'il est très sympathique. Mais globalement, et on sait, j'ai également dit un peu que ça serait bien d'arrêter d'écouter EFO pénitentiaire, qui est un peu le syndicat qui est derrière tout ce que M. Darmanin met en place, hein, concrètement, enfin, ses propositions populistes, quoi. Donc voilà. Je vais dire.
Vos collègues me disaient tout à l'heure que finalement le ministre fait comme si vous n'existiez pas, ne tient pas compte en fait de votre service. Mais là, il a l'air quand même, il est venu à votre rencontre, il discute et vous propose même une rencontre, j'ai l'impression, non ?
Oui, c'est ce qu'il a dit, après qu'il ferait des rencontres en région. Après, on n'oublie pas que c'est un politique. M. Darmanin, il aime bien aller voir tout le monde, comme ça il pourra dire qu'il a vu tout le monde et voilà, c'est super. C'est ce qu'il a fait notamment à un moment donné, il est venu à un CSA, donc un comité social d'administration où il a entendu la déclaration liminaire, mais derrière voilà il s'est pointé à l'Assemblée nationale en continuant ses discours de comment dire populiste au niveau pénitentiaire ou pénal. Bon voilà, j'y crois pas trop, quoi. J'attends pas grand chose. Même si ce que je disais, là cette semaine s'ouvre les états généraux de l'insertion et de l'approbation, mais ils ont transféré des questions aux différentes organisations syndicales, elles sont clairement orientées dans un truc de prison et toujours plus, quoi. Ben voilà, il y a un sens en fait. Il y a un sens d'action. Donc bon, au moins il a entendu qu'il y a une opposition. Et on n'est pas aussi. L'idée c'est pas non plus d'être tout le temps dans l'idée du dialogue social. On veut aussi marquer notre opposition dans la rue et compagnie et faire de nouvelles actions. D'ailleurs, nous, notre syndicat a fait des actions nationales le 6 mai. Il en refera le 17 juin encore devant la direction interrégionale pénitentiaire. Donc voilà, c'est un processus jusqu'à possiblement un rassemblement national à Paris.
Vous dépendez là au SPIP du ministère de la Justice ?
Oui, tout à fait. En fait, on est au sein de la direction de l'administration pénitentiaire. Et nous, de nos revendications, d'ailleurs, c'est d'ailleurs d'en sortir. On ne veut plus être dans la pénitentiaire, mais rester dans le ministère de la Justice. Mais cette direction, en fait, elle dépend du ministère de la Justice.
Parce que quand il était à l'intérieur d'Armanin, il les chouchoutait, ces agents-là. C'était bon d'être policier sous Darmanin. Est-ce que c'est bon d'être conseiller de probation et d'insertion sous Darmanin?
Par contre, c'est bon d'être surveillant. C'est ça, c'est que là, actuellement, il a choisi. Et bon, après, le truc, c'est que M. Darmanin, il applique ses politiques du ministère de l'Intérieur aussi. C'est-à-dire qu'il crée une police pénitentiaire et compagnie. Il donne plus de fric au côté répressif dans la pénitentiaire. En fait, là, il a décalé le ministère de l'Intérieur au ministère de la Justice. Et nous, déjà, on a du mal à se vivre pénitentiaire, on se vit encore moins policier. Donc, bon, voilà un peu le truc.
Nos prisons prennent feu et nous détournons les yeux attirés par les sirènes populistes du ministre. Cette atmosphère de guerre et de surenchère met aussi en danger les fonctionnaires, qui se retrouvent à avoir peur lorsque les portes des prisons se font taguer et des véhicules brûlés. Nous ne sommes pas des guerriers ou des guerrières, nous sommes des travailleuses et travailleurs sociaux. Alors on nous parlera de la lettre du ministre du 11 mai 2025 aux magistrats et fonctionnaires du ministère, ou des états généraux de l'insertion-probation qui ont commencé cette semaine, tout en vendant de l'approbation par-ci par-là. Mais qu'attendre d'un ministre qui ne connaît pas les services pénitentiaires d'insertion et de probation ? Qu'attendre de la formule des états généraux, héritée d'une monarchie déclinante sous l'aube de la Révolution française? N'oublions pas les cahiers de doléances des gilets jaunes, qui n'ont rien donné, et le refus actuel du pouvoir de les rendre publics. Nous n'attendons donc rien à part de la désillusion et de l'autoritarisme, et nous nous rendons compte que le principal problème de la justice, c'est son ministre. Et pourtant, il existe d'autres chemins, comme la réelle remise en cause du tout carcéral, un accompagnement social réinvesti et puissant, ainsi qu'une véritable implication de la société dans la prise en charge des personnes défavorisées. Mais ce n'est pas l'objectif de ce gouvernement, et plus particulièrement de ce ministre. Les ambitieuses ambitions de l'ambitieux ne visent que la future présidentielle, et peut-être les municipales à Tourcoing. Monsieur Darmanin semble se vivre plus candidat que maire, ministre ou président, au détriment de ceux et celles qui croisent son chemin. Mieux vaut une bataille avec son alter ego, Monsieur Retailleau, plutôt que l'intérêt général.
Nous, ce qu'on revendique, c'est de travailler dans de bonnes conditions, déjà, puisqu'on a quand même un problème de sous-effectif assez chronique chez nous. On accompagne à peu près, donc moi je travaille au SPIP de Lille, on est environ à 80 personnes, 90 personnes confiées par travailleur social, donc c'est quand même un peu corsé. On a des situations de plus en plus difficiles puisque les gens ne sont plus pris en charge ailleurs avec tous les services publics qui se cassent la gueule et notamment, mais pas que, mais notamment le service public du soin psychiatrique, donc c'est quand même un peu compliqué. Nous, ce qu'on revendique, c'est de pouvoir donc travailler dans des meilleures conditions, mais aussi pouvoir accueillir les gens dans un contexte qui ne soit pas que stigmatisant pour eux, où la peine est finalement un élément de leur situation, qui ne soit pas centré uniquement là-dessus, et où on puisse travailler sur des meilleures conditions de vie pour ces personnes, pour éviter qu'il y ait des circonstances similaires dans leur vie qui l'ont poussé à commettre un acte transgressant la loi. Aujourd'hui, on a des personnes qui sortent de prison. Donc là, on parle souvent de l'insertion des gens, du risque de récidive. La récidive existe aussi beaucoup parce que les gens sortent dans des conditions beaucoup plus dramatiques que quand ils sont entrés en détention. Et aujourd'hui, il y a souvent pas de papier d'identité, pas d'adresse, pas de logement. Les gens perdent tout parce qu'ils vont en prison, alors qu'on pourrait l'éviter, d'ailleurs, au passage. Nous, c'est tout ce qu'on revendique, c'est ça.
Malgré toute la violence ambiante, sachez qu'ici, nous avons choisi le camp de l'humanisme et de la sociale. Notre société n'est pas celle de la guerre contre tous, de tous contre tous. C'est pourquoi vous nous trouverez sur votre chemin pour vous rappeler que vous avez tort et que vous êtes comptable de vos politiques politiciennes brutales. Pour la paix, nous nous battons pour la famille d'Aboubacar Cissé, tué dans un attentat islamophobe, où un ministre a mis plusieurs jours pour venir. Nous nous battons pour Gaza, victime d'un génocide doublé d'une famine, pour la Kanaky colonisée et réprimée, pour l'Ukraine déchirée, pour Haïti bafouée et endettée, et pour le Congo ou le Soudan meurtri. Pour la paix, nous nous battons pour les emplois menacés d'ArcelorMittal à Dunkerque, de la Redoute, de Roubaix ou de Haut-Tinor à Saint-Amand-les-Eaux. Pour la paix, nous nous battons pour les humains et les humaines, peu importe leur couleur de peau ou leur religion, qui n'ont plus de sous dès le début du mois et qui s'affaissent au cachot du désespoir, pour paraphraser Aimé Césaire. Merci les camarades d'être là.
Donc, de façon littérale, dans mon bureau, il y a les sceaux de la République. Mais il garde aussi l'autorité indépendante. Il est le garant de l'indépendance des magistrats.
Vous filmez ou vous faites...
Je prends juste du son.
Du son ?
Pour Radio Campus.
Pour ?
Radio Campus.
Radio Campus.
Radio Campus 106.6.
C'est ça.
Vous avez interviewé les...
Tout à fait, ouais, les syndicalistes qui sont devant du SPIP là.
D'accord.
Ouais.
D'accord. C'est quoi la station 106
106.6, c'est Radio Campus.
C'est une radio locale.
Locale ?
C'est ça. C'est la plus vieille des radios libres de ce pays.
D'accord. Je vous en prie.
Nous l'espérons tous. L'autorité, ça peut pas être le papa qui dit un truc, la maman qui dit l'inverse, parce que là, on va avoir un petit problème pour le coup d'autorité. Donc que les mots correspondent aux choses. Que quand on dit à un enfant qu'il ne regardera pas la télévision, il ne regarde pas la télévision, pas 10 minutes, pas un quart d'heure, il ne regarde pas la télévision, je pense que la société se porterait mieux. Que les mots soient...
Voilà, c'était notre reportage d'Armanin et les SPIP. Grand merci au service de sécurité du ministre de la Justice pour le jingle Radio Campus gratuit.
Magnifique.
On a écouté Darmanin tchatcher une salle pleine avec de la fermeté plein la bouche, mais c'est vrai, pas un mot pour l'insertion et la prévention, alors qu'il est établi que ce sont là les moyens les plus efficaces pour lutter contre la récidive.
Fermeté, fermeté, mais fermeté de classe. Les différentes enquêtes montrent que le bracelet électronique, tout en étant une alternative légitime à la détention, est consensuellement conditionné par des critères sociaux, logement stable, emploi, suivi juridique. Des conditions qui désavantagent souvent les personnes issues des milieux populaires ou en situation de précarité. De ce fait, le recours à cette mesure n'est pas neutre et constitue une véritable question de classe.
Passe au rouge, c'est fini. L'émission a été réalisée par Seb avec Jean-Jacques et Fabienne.
Salut.
Dans un instant, c'est Milky, puisque rien
Mais
n'a encore
qu'est-ce
changé.
Qu'est-ce qui le fait rire autant ?
À 21h, ça va broutser sur Radio Campus avec Start. Et jusque 22h, puisque vous retrouverez ensuite Hervé Delisle qui vous hypnotise dans son kaléidoscope Culture Plus. Fabienne des annonces.
19 juin à 8h, convocation d'un camarade de l'Union locale de Lille suite à la grève des Verbaudets accusés de violence sur les forces de Lyon, de l'ordre. Ce même jour, porte des postes à 18h, rassemblement pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, puisque ce sera ce jour-là que nous connaîtrons le verdict pour Georges.
Enfin.
Tout à fait. Enfin, un verdict positif ne veut pas dire une libération. Nous savons malheureusement que trop.
Tu en avais promis trois, Fabien.
Et le 20 juin, manifestation avec à Dunkerque pour les ArcelorMittal.
Et justement, j'ai envie de demander, et toi, Milky, t'es plutôt Rima ou Hassan?
À lundi 19.
Ça fait des années que j'attends ça.